Divergence FM, l'interview.
Avec nous aujourd'hui au studio, le pianiste italien Vittorio Forte. Alors, on va dire un nom prédestiné pour le piano, puisque en italien, un piano, c'est pianoforte.
Hein? Absolument. Donc,
voilà. Alors, qui va donner un concert prochainement, le 28 novembre à 20h, à la salle Molière de l'Opéra Comédie, un concert qui s'appelle L'Italia al pianoforte, hein, donc l'Italie au piano. Alors, Vittorio Forte, nos auditeurs ne vous connaissent pas forcément, un peu vous présenter comme pianiste. Alors, vous avez un titre, vous avez obtenu un concours, je dirais le concours, un prix Chopin dans le concours Perlemutter. Alors, c'est unique parce qu'il n'y a eu qu'une édition.
En fait, c'était mon tout dernier concours, le tout dernier concours que j'ai fait en tant que jeune pianiste, disons. Et c'était effectivement la seule et unique édition de ce concours. C'est-à-dire que, en fait, le concours a continué après, mais il n'a plus eu l'appellation Vlado Perlemutter. Donc, cette édition-là, la toute première, il y avait aussi un prix Chopin. Et ben, j'ai eu la chance de gagner le prix Chopin pendant ce concours. Moi, j'en étais très, très content, d'autant plus que j'avais le rêve de participer au concours Chopin à Varsovie et je n'ai jamais pu le faire à cause de certains problèmes de limite d'âge. Parfois, j'étais ou trop jeune ou pas assez prêt aussi. Donc, voilà, c'est les circonstances de la vie qui font que...
Oui, alors ça, pour les auditeurs, se rendent pas toujours compte. Une carrière de pianiste, c'est les concours à droite, à gauche.
En carrière
à
de
préparer.
Pianiste, oui,
fondamentalement. Alors, qu'est-ce qui vous a amené à vous lancer comme ça tout dans une carrière de pianiste?
De manière générale, une carrière de pianiste, c'est une carrière assez formatée, comme toutes les autres carrières. Vous commencez très jeune, vous faites des études dans un conservatoire ou dans une institution publique, vous travaillez plus ou moins régulièrement, vous passez des examens jusqu'à arriver à l'examen final. Après, vous avez des réseaux, vous perfectionnez, vous passez des concours, et puis voilà, où on lance une carrière, où on devient enseignant, où on fait aussi d'autres projets, c'est mon cas d'ailleurs, plutôt. J'ai eu un parcours un petit peu plus compliqué, déjà parce que je viens d'une région de l'Italie, la Calabre, donc tout au sud, qui est une région qui, il y a 35 ans, était assez sinistrée culturellement, ce qui fait que je prenais des cours de piano, mais c'était très ponctuel, et le professeur était loin d'avoir les compétences pour réellement pouvoir former un futur pianiste, ou même ne serait-ce qu'un probable talent. Donc j'ai essayé vraiment de m'accrocher. J'ai perdu des moments, à certains moments de mon adolescence, la passion pour l'instrument, me détournant un peu de cet objectif en pensant à autre chose. Et puis j'y suis retourné sérieusement, vraiment, quand j'étais assez âgé, déjà 17-18 ans, ce qui est assez âgé pour un jeune pianiste, avec l'aide d'un professeur argentin qui était un ami de famille, en fait, et qui était aussi en Calabre, tout à fait par hasard, je dirais. Et j'ai travaillé avec lui, je me suis formé pendant 2-3 ans avec lui avant de commencer à faire les concours. Donc, en fait, avant même d'avoir les diplômes qu'on peut faire dans un conservatoire ou dans une institution, moi, j'ai commencé par les concours et par créer un répertoire pianistique, voyager pas mal, lire beaucoup, m'instruire musicalement et aussi... au niveau de la littérature, de la poésie, etc. Donc vraiment une formation, je dirais, un peu atypique par rapport à ce qu'on peut faire, ne serait-ce qu'aujourd'hui, pour devenir ensuite musicien. Hein. Et puis, voilà, la carrière est venue grâce à mon premier disque en 2008 avec la maison de disques Lyrinx. C'est un disque consacré à Clementi, d'ailleurs, qui sera au programme du concert mercredi. Donc Clementi est un compositeur italien très connu pour sa didactique, hein, pour toutes les études qu'il a écrites, les
puis
exercices.
Puis l'activité d'éditeur.
D'éditeur, de fabricateur, facteur de piano.
Acteur de piano,
aussi,
et diffuseur de voilà, il était représentant aussi quasiment.
Pratiquement, représentant commercial d'une marque, la Broadwood, il me semble. Et effectivement, c'est un compositeur qui est connu pour les mauvaises raisons. Et là, dans ce concert, donc le concert de mercredi soir, je jouerai deux œuvres assez intéressantes de Clementi, une sonate très célèbre parce qu'elle a été jouée par des grands pianistes, qui est extrêmement intéressante parce qu'elle ouvre la porte sur le futur romantisme, en fait, hein, même si elle a été composé à une époque où il y avait déjà Beethoven qui avait une carrière avancée de compositeur. Chopin était déjà né et puis une fantaisie assez sympathique, assez ensoleillée, je dirais, sur un thème, une chanson comptine française, Au clair de la lune, qui est assez intéressante pour finir la première partie du concert, en fait.
Voilà, un compositeur qui a composé quand même une centaine de sonates pour piano.
Globalement, en fait, pour piano, seul une soixantaine, hein, en fait. Et puis un certain nombre, c'est des sonates avec accompagnement de violon. Donc c'est autre chose. Mais par contre, il est un compositeur qui a composé des concertis, des symphonies, de la musique de chambre, mais très peu connu. Très peu
D'accord.
connu, effectivement.
Alors, on va parler un petit peu du programme, hein, que vous présentez. Bon, votre discographie, on voulait en parler, vous avez évoqué Muzio Clementi.
Mais il y a aussi suite avec la maison de disques
Lyrinx. Vous êtes resté dans ce monde des romantiques, je dirais.
Oui et non.
Puisqu'il y a eu Schumann.
Oui, il y a eu Schumann, effectivement, le deuxième disque que j'ai fait avec la maison Lyrinx. Et puis ensuite, il y a eu deux disques assez particuliers, assez, je dirais, originaux du point de vue de la composition du programme. Un disque consacré à Couperin et à Chopin. Donc j'ai alterné des pièces de Couperin et de Mazurka de Chopin, mises en parallèle, très intéressant disque. Et le quatrième était un disque consacré à l'art du chant transcrit au piano, en fait. L'art du chant transcrit au piano par de compositeurs comme Franz Liszt, qui était un grand transcripteur.
Grand transcripteur.
Dont on entendra certaines œuvres mercredi, les fameux trois sonnetti del Petrarca, qui sont extraits des années de pèlerinage, et des transcriptions de Earl Wilde, notamment de chansons de Gershwin. Donc c'est un disque intéressant. Mais
oui, Earl Wilde, un pianiste virtuose,
on a
un petit peu oublié.
Malheureusement, oui. Ouais. Malheureusement, oui, mais qui était tout à fait capable de transcrire. D'ailleurs, il a beaucoup transcrit aussi les romances de Rachmaninoff qui font partie de ce disque Voyage mélodique que j'avais enregistré il y a 3 ans. Et c'était la dernière collaboration avec le label Lyrinx, dont je garde vraiment un merveilleux souvenir.
Alors, dans ce programme, moi, il y avait deux noms qui m'ont beaucoup intéressé. Un qu'on connaît pour les musiques de films, pour Fellini, mais aussi pour Francis Ford Coppola avec Le Parrain, c'est Nino Rota, qui n'a pas écrit que des musiques de films. Qu'est-ce que vous allez nous faire découvrir de Nino Rota?
En fait, moi, j'ai découvert aussi, je connaissais un peu aussi sa musique pour piano, naturellement sa musique de film, mais je n'avais jamais pensé à intégrer des musiques de Nino Rota au programme, bon, pour différentes raisons, question de temps vraisemblablement. Et c'est vrai que lorsqu'on m'a demandé de composer un programme italien, j'ai pensé que c'était quand même intéressant de mettre en avant un compositeur mondialement connu, italien mondialement connu, peut-être pas pour des raisons classiques, mais mondialement connu. Et sa musique piano, pour piano, s'avère être extrêmement intéressante. Avec notamment ses préludes, ses 15 préludes, ses 15 miniatures qui sont vraiment des instantanés magnifiques, qui s'inspirent un peu des préludes de Chopin, qui ont un langage qui est proche aussi de certaines musiques de ballet, par exemple, ou de la musique de Prokofiev, avec parfois l'alternance entre une musique très fluide, très chantée, comme on peut retrouver d'ailleurs dans ses musiques de films comme Le Parrain, et puis des musiques plus percussives, plus, je dirais, onomatopéiques.
Il a développé une amitié avec Stravinsky, notamment.
Absolument, absolument. Voilà. Donc on y entend quand même ses influences. Donc c'est un compositeur dont on sent dans sa musique en fait une certaine discrétion et un très grand respect pour la forme musicale et pour ceux qui ont été les grands compositeurs qui l'ont certainement inspiré. C'est quand même un homme d'une très grande culture, Nino Rota. Le monde hollywoodien se l'est un peu approprié, hein, puisqu'effectivement son grand succès a été marqué par les musiques de films. Mais j'espère, enfin en tout cas moi personnellement, je pense m'intéresser de plus en plus à sa musique pour piano. J'ai un très grand ami, Michelangelo Carbonara, qui avait enregistré pas mal d'œuvres de Nino Rota, d'ailleurs. Et il a très bien fait, d'ailleurs, parce qu'il faut continuer à faire découvrir cette musique.
Oui, c'est une vraie découverte. Et puis, moi, j'encourage les auditeurs à aller découvrir, parce que c'est aussi des concertos pour violoncelle, un concerto pour trombone,
des concertos
pour piano. Enfin, voilà, il y a tout un tas de pièces de musique entre guillemets sérieuses,
si on veut,
qui restent du Nino Rota. Malgré tout, on entend des échos, on peut reconnaître quand on a l'habitude de ces musiques de film,
voilà,
on reconnaît.
Voilà. Il y a un langage.
C'était un langage particulier à contre-pied de tout ce qui se faisait à l'époque.
Si on y pense quand même, on est dans les années 40, 50, 30, 40, 50 et même 60. Et effectivement, on n'est pas
du
tout
sur entre guillemets désespérément tonal.
Voilà, ça on peut dire ça. On peut dire ça malgré les dissonances qui peuvent déranger certaines personnes non initiées. Mais franchement, c'est une musique tellement suggestive qui je pense séduira le public du concert.
Et alors, dernier compositeur rapidement, Giovanni Martucci.
Giuseppe Martucci, oui, c'est un compositeur napolitain d'ailleurs, qui fait partie de la grande école napolitaine et compositeur qu'on peut... Moi, je très souvent, quand je le présente en concert, je dis que c'est un peu le Liszt italien. C'est-à-dire, c'est celui qui a, pour le piano, écrit des pièces qui ressemblent un peu, qui pourraient être, en tout cas, dans la veine listienne, du point de vue technique, du point de vue du langage musical, hein, du contenu musical. Et là, pour terminer le concert de mercredi, il y aura une pièce dédiée, si l'on veut, à un opéra de Verdi, La Forza del Destino. C'est une fantaisie sur les thèmes principaux de La Forza del Destino, où on peut retrouver d'ailleurs un thème fortement connu aussi par les personnes qui s'intéressent au cinéma en général, parce que c'est le thème du film Jean de Florette, en fait, qui fait partie de La Forza del Destino. Et là, dans la transcription pour piano, dans cette fantaisie de Martucci, on retrouve ce thème.
Oui, qui a fait une musique instrumentale à l'époque où, justement, vous évoquez Verdi, où le bel canto, le chant, donc c'est le représentant du piano italien,
dire,
à une époque où le piano, c'était le chant.
Absolument, c'était la priorité.
Bien, merci beaucoup Vittorio Forte. Alors, on rappelle la date, le lieu du concert, donc c'est mercredi 28 novembre à 20h, à la salle Molière à l'Opéra Comédie. C'est proposé par le Centre culturel italien Dante Alighieri, donc au programme Frescobaldi, Giuliano Frescobaldi, Domenico Scarlatti, Muzio Clementi, Franz Liszt, qui n'est pas italien mais qui a vécu longtemps en Italie, Nino Rota et Giovanni Martucci. Merci Vittorio Forte, bon concert.
Merci infiniment.
Et nous recommandons à nos auditeurs d'y faire un tour, ça devrait être fort intéressant. Bien, merci Vittorio Forte, et nous nous quittons avec une petite musique de Nino Rota, un des préludes par votre ami Michelangelo Carbonara.